Bonjour, bienvenue. Je vais parler portugais. Muito bom dia a todos os presentes. Cumprimento todos os representantes do Conselho Nacional do Parlamento da Suíça também senhoras e senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa aqui presentes. Hoje, meu nome é Ricardo Batista Leite, sou membro do Parlamento do Partido Social Democrata, é um partido da maioria, que suporta o atual governo e, por impossibilidade de última hora do presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, estarei eu a presidir esta audiência, sendo que o Sr. Presidente me pediu para enviar também os seus cumprimentos. Aproveito para vos dar as boas-vindas ao Parlamento, a este palácio do século XVI, que espero que tenham também a oportunidade de visitar, que merece a visita. É um motivo de orgulho para nós portugueses e é conhecida como a Casa da Democracia e de todos os portugueses. Dizer-vos que para nós é com particular apreço que acolhemos a vossa visita, até pelas relações históricas que Portugal e Suíça têm, que se traduzem muito depois também na diáspora portuguesa muito presente no vosso país e também pelos interesses académicos, culturais, até económicos que existem na relação entre Portugal e a Suíça. Existem no círculo dos deputados eleitos na Europa, porque nós temos esta condição que o nosso Parlamento tem dois deputados que são eleitos pelos portugueses que vivem fora de Portugal, dentro da Europa, um é social-democrata, outro é socialista e que sei que muito do seu trabalho passa pelo convívio direto com a diáspora portuguesa presente na Suíça e também, naturalmente, com a nossa rede diplomática presente no vosso país e, portanto, é uma relação que muito valorizamos. Aproveito para apresentar, também presentes hoje, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Celeste Correia, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Enes, do Partido Socialista. Estão a ver, estou rodeado de membros do Partido Socialista, e tenho agora o nosso mais recente representante do Partido CDS-PP, Rui Caetano. O deputado Rui Caetano, que tomou posse recentemente há dois dias e que pertence ao Partido Popular, que é o Partido Democrata Cristão, e que com o Partido Social Democrata, com o meu partido, juntos formamos a maioria, a coligação que sustenta o governo. Dito isto, termino dando mais uma vez as boas-vindas, desejando que seja uma visita profícua e, se calhar, se os meus colegas concordassem, antes de passar a palavra, daríamos uma oportunidade para que a delegação suíça se apresentasse e depois iniciaríamos aqui o diálogo. Obrigado.
Voilà, chers collègues, mesdames et messieurs, d'abord, j'aimerais, comme je l'ai fait tout à l'heure avec votre présidente du Parlement, vous remercier très sincèrement de nous accueillir ici au Portugal. Nous sommes très soucieux de renforcer en Suisse la diplomatie parlementaire, les contacts internationaux, puisque par vos intérêts sur la politique extérieure, vous le savez très bien, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais la Suisse est complètement intégrée dans le système des relations internationales, la Suisse des organisations internationales à Genève, la Suisse des conventions des droits de l'homme, la Suisse de la Croix-Rouge, etc., mais aussi la Suisse institutionnelle qui est, par ses relations bilatérales très intenses avec l'Union européenne, en fait, est très intégrée, mais pour les autorités, pour notre gouvernement et aussi pour nous, membres du Parlement, nous ne participons pas à tous ces échanges qui ont lieu au sein de l'Union européenne et nous participons par contre à toute une série d'organismes plus réduits, l'OSCE par exemple, notre délégation avec les pays de l'espace économique à ILE, notamment Mme Ricklin qui participe. Donc on a une interconnexion, mais en même temps un besoin aussi au sein du Parlement de développer la problématique des relations internationales, parce que culturellement, la Suisse, et c'est un paradoxe pour les autorités politiques, les Suissesses et les Suisses sont très fiers de leur indépendance, mais en même temps, ils sont complètement interconnectés. On est physiquement tous interconnectés entre le sud, le nord, l'est, l'ouest, avec l'Allemagne, la France, l'Autriche, l'Italie. On a des relations très très proches de voisinage. On a, à travers nos infrastructures, des liens très étroits nord-sud, est-ouest, avec nos infrastructures routières, ferroviaires, l'énergie aussi, etc. Mais notre population est une population qui est très fière d'être indépendante. Et pour les autorités politiques, il faut gérer cette fierté d'être indépendant. C'est un peu le mythe de l'indépendance. On est très fier d'indépendant, mais en même temps, on est complètement lié aux autres. Et c'est tant mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous autres parlementaires entretenons dans les deux chambres, que ce soit au Conseil national ou au Sénat, ces relations interparlementaires. Et c'est une des explications de notre voyage ici, au-delà des liens très étroits qui lient nos pays et surtout de la forte communauté portugaise qui est en Suisse et qui est extrêmement précieuse pour notamment notre fonctionnement économique. Peut-être vous présenter aussi mes collègues. À mes côtés, Christa Marc-Walder, qui est la première vice-présidente, parce qu'en Suisse, on change chaque année de président au gouvernement et on change chaque année de président au Parlement, au Conseil national et au Conseil des États, notre Sénat, dans notre système politique de concordance, où sur sept ministres, nous avons cinq partis politiques et nous avons ce tournus. Donc moi, je suis membre du Parti social-démocrate, mais c'est Parti socialiste chez vous. On a dû switcher sur les noms, là, pour pas qu'il y ait de confusion. Christa Marc-Walder, donc ma première vice-présidente, est libérale radicale. À ses côtés, Francine John Callam fait partie du groupe des Verts. Tout au fond, Andy Tumperlin est le chef du groupe socialiste. Cathy Ricklin est membre du Parti démocrate chrétien. Et puis, monsieur l'ambassadeur, notre secrétaire général, et madame Vildi Barabio, notre collaboratrice. Voilà un petit échantillon de cette pluralité de la gouvernance suisse. Et c'est un système qui est pour nous très intéressant, avec cette politique de concordance, de consensus qu'on développe. Et à cette politique de concordance, il faut ajouter la démocratie directe, avec le droit de référendum et surtout le droit d'initiative populaire, qui peut émaner de n'importe quelle catégorie de la population. Vous êtes cinq autour d'un verre un soir dans un restaurant et vous voulez lancer une initiative populaire, eh bien, vous pouvez le faire. Vous constituez un comité, vous récoltez 100 000 signatures et vous pouvez demander que la Suisse revoie ses relations avec l'Union européenne. C'est ce qui nous est arrivé il y a une année et demie. Voilà, ça fait partie de la complexité de notre pays. On aura peut-être l'occasion d'échanger notamment sur les relations avec l'Union européenne tout à l'heure.
Muito bem, muito obrigado. De facto, nós, como elementos externos, de facto apreciamos muito esta dicotomia da Suíça Internacional, sede de tantas instituições internacionais, e depois, simultaneamente, este orgulho nacionalista e da sua visão independente do mundo, de facto, é algo que internacionalmente é reconhecido e característico, diria mesmo, do povo suíço. Penso que também são um exemplo para nós no que diz respeito àquilo que falava na questão da cidadania e da iniciativa popular. Penso que a Suíça, de facto, tem exemplos que são únicos, em alguns casos, e que são exemplos de boas práticas que todos nós que defendemos a democracia analisamos sempre com muito cuidado. E eu, pessoalmente, como médico, também aprecio muito todo o trabalho que têm feito no campo da saúde, onde, de facto, há áreas que são verdadeiramente vanguardistas, não apenas na parte tecnológica, que é indiscutível, tendo das maiores tecnológicas do mundo, mas também do ponto de vista de intervenções de comunidade junto às populações mais vulneráveis. De facto, a Suíça tem uma série de boas práticas que devemos analisar sempre com muita atenção, e até para podermos aplicar as boas práticas nos nossos países. Dito isto, se calhar iniciarei uma ronda pelos senhores deputados que assim entendam falar, não sei. Então passo desde já a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor deputado. Começo por dar as boas-vindas à delegação do Parlamento Suíço, que sobretudo gostava de enfatizar o prazer que é recebê-los aqui na Assembleia da República, e gostava também de referir que o membro desta comissão, da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Partido Socialista, eleito pela Europa, o deputado Paulo Pisco, que é, de facto, quem tem uma relação direta com os portugueses nas comunidades espalhadas pela Europa, e em particular com aquelas que vivem na Suíça, está ausente, penso que no Luxemburgo, no âmbito da sua ação parlamentar, razão pela qual não está aqui hoje, e razão pela qual estou hoje eu e o meu colega Carlos Enes, e a minha colega também, aqui a representar o Partido Socialista. Estou certa que ele gostaria particularmente de poder não só formular questões, como dar-vos as boas-vindas, porque certamente várias vezes terá tido a ocasião de desempenhar funções similares, inclusivamente no vosso país, em representação do Partido Socialista. É de facto um membro parlamentar muito ativo junto à comunidade portuguesa, que é grande, como já aqui foi dito, e bem, e julgo que é uma comunidade muito bem aceita e muito respeitada pelo trabalho, pela forma como se integrou e como participa no desenvolvimento do vosso país. Gostei, em particular, de ouvir a exposição que aqui foi feita sobre a independência da Suíça, e é de facto muito interessante, e nós admiramos profundamente a longa história de estabilidade da Suíça, que se deve muito a esta independência. Mas nós aqui chamamos a neutralidade. A expressão que aplicamos é a famosa neutralidade suíça. Gostamos muito desta expressão da neutralidade, que associamos à independência. E isto traz, claro, outras conotações, mas aqui no nosso país temos muito esta ideia da neutralidade suíça, que tem trazido à Suíça também vantagens, claramente, do ponto de vista político, e é um pouco também sobre isto que eu gostava de colocar algumas questões. Começo por uma questão talvez delicada e que é apenas por uma questão de curiosidade e que tem a ver com o facto de a Suíça ser um país que durante muitas décadas tem beneficiado e ao mesmo tempo contribuído para ajudar muitos países com a sua política de imigração. E que cerca de um ano a esta parte, se não me engano, chegou ao conhecimento aqui da Europa uma iniciativa política, não sei se parlamentar, se da iniciativa civil, de uma iniciativa de restrição à imigração. Foi muito surpreendente para nós, no sentido que para nós sempre tinha sido realmente um símbolo a Suíça como um país de acolhimento da imigração. Eu gostava de entender um pouco melhor o que é que motivou este diploma, esta iniciativa política de restrição à imigração, que não quer dizer que tenha manchado a imagem da Suíça, certamente, mas pelo menos criou aqui algumas dúvidas sobre essa matéria e eu gostava muito de ouvir a vossa opinião. A segunda questão que eu queria colocar, e agora prende-se diretamente com a neutralidade suíça, tem a ver com as preocupações e com a encruzilhada que a Europa atravessa neste momento. E é uma encruzilhada muito grave para nós, socialistas, sociais-democratas certamente também, e todo um posicionamento ideológico que se preocupa com o desenvolvimento da Europa e com o desenvolvimento das pessoas, dos cidadãos, no sentido de que o crescimento das economias depende muito da possibilidade de se encontrar meios e mecanismos para que esse crescimento possa ser feito, independentemente dos ataques às economias que tenham ocorrido nos últimos anos por razões que têm a ver com as instituições financeiras e menos com o bem-estar das populações. E eu queria questionar-vos que, no quadro da vossa naturalidade, no quadro da vossa situação de fora do euro, fora da União Europeia, como é que assistem, como é que estão a assistir a esta ameaça à estabilidade da União Europeia perante a possibilidade da Grécia poder sair do euro, perante o desmoronar da própria moeda única e perante todos os desafios que se colocam à estabilidade da Europa neste contexto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se concordarem, iríamos ouvir mais um senhor deputado e depois passaríamos às vossas...
Je vous propose de discuter peut-être ce thème, parce que c'est un thème qui est énorme et qui est chez nous un vrai thème à la fois de politique intérieure et un vrai thème de politique extérieure. Tout à l'heure, je pense que c'est plus simple. Comme ça, on a ce thème-là qui est vraiment complexe. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, si les citoyens autour d'une table de restaurant décident de faire une initiative populaire, ils récoltent 100 000 signatures et cette situation du 9 février 2014, c'est une initiative populaire qui a été déposée et ensuite le peuple décide. Et je vais passer la parole à ma vice-présidente Christa Marc-Valder pour présenter un peu la situation autour de cette problématique et puis après je passerai la parole aux autres députés, parce que chez nous, c'est le gros sujet de politique intérieure aujourd'hui. Tu veux prendre celui-ci ?
Ça va bien. Ça va ? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'aimerais aussi bien vous remercier de nous accueillir et de discuter avec nous des problèmes actuels et la situation en Europe, c'est-à-dire les relations bilatérales à la Suisse avec l'Union européenne, mais aussi ce qui se passe dans l'Union européenne nous concerne beaucoup. Comme notre président a dit, nos relations avec l'Union européenne sont énormément étroites sur beaucoup de plans, sur le plan économique, mais nous partageons les mêmes valeurs sur lesquelles l'Union européenne ou l'intégration européenne se base. Mais la Suisse a décidé en 1992 de ne pas devenir membre de l'espace économique européen. Et c'était là où on a essayé de trouver des autres solutions, comment régler les relations avec l'Union, et on a trouvé un chemin très pragmatique qui s'appelle pour nous la voie bilatérale, c'est-à-dire nous avons reçu accès au marché intérieur dans plusieurs secteurs, nous avons repris aussi des principes fondamentaux comme la libre circulation des personnes, et c'était vraiment une situation de laquelle les deux côtés, c'est-à-dire la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, ont pu profiter. Et on a vu que pendant les dernières années qu'on a introduit cette libre circulation des personnes, l'immigration a augmenté beaucoup, c'est-à-dire on a eu à peu près 1% de la population qui est immigrée par année. C'est la migration ou l'immigration normalement très très qualifiée qui a beaucoup contribué à notre succès économique. Mais quand même, il y avait des soucis aussi au sein de la population parce que nous vivons dans un pays avec un territoire très limité, avec beaucoup de montagnes où on ne peut pas habiter n'importe où. Et il y avait aussi quelques soucis avec notre infrastructure, avec le trafic, avec tout ça, dans ce climat, cette initiative était lancée et elle était acceptée par un résultat très, très serré. Peut-être ça vous intéresse que tous les parlementaires qui sont ici à la table ont lutté contre cette initiative, mais quand c'est décidé une fois par le peuple, c'est aussi à nous, le Parlement, d'essayer comment on peut régler les choses maintenant sur le niveau légal. Et pour nous, c'est très important de ne pas violer nos obligations ou nos traités avec l'Union européenne, c'est-à-dire la libre circulation est très importante pour la Suisse aussi, mais on essaye de trouver des chemins pragmatiques, comment on pourrait résoudre la situation. Parce que le nouveau article constitutionnel ne dit pas vraiment réduire l'immigration. C'est indirectement oui, mais ce qu'il est dit, c'est nous réglons nous-mêmes de quels critères l'immigration se comporte à l'avenir. Et ça veut dire qu'on essaye de trouver des recettes qui ne violent pas le principe de la libre circulation, mais en même temps, peut-être on peut aussi être un peu plus strict avec des pays tiers, parce que la migration ne vient pas seulement des pays européens, mais aussi de l'Amérique, de l'Asie, de l'Afrique, évidemment. Et comme ça, on essaye de trouver une solution pragmatique et constructive. En même temps, j'aimerais aussi dire que la situation économique en Suisse se présente au moment aussi à peu près difficile, parce que nous avons notre monnaie, nous avons notre franc suisse, qui est maintenant très très fort. Et nous avons aussi beaucoup de soucis avec la situation en Grèce parce que ça donne beaucoup de pression sur notre monnaie, sur la monnaie et pour notre industrie d'exportation par exemple et pour notre tourisme, ça crée des problèmes énormes. Ce que je veux vous dire, c'est que la Suisse est tellement interdépendante, aussi liée à l'Union européenne, que tous les soucis et les défis européens sont aussi les défis pour nous. Et nous voyons aussi que dans des autres pays, il y a aussi beaucoup de questions sur la migration en général, peut-être pas tellement liées comme chez nous, mais plutôt aussi les flux des réfugiés de l'Afrique du Nord, et qui peut aussi créer un climat politique qui nous pose quelques problèmes ou que nous devons trouver des solutions sur le plan européen. Et nous sommes conscients qu'il faut des solutions sur le plan européen et que n'importe pays, soit le Portugal, soit la Suisse, soit l'Italie, peut résoudre ces défis soi-même. Seulement, peut-être encore un mot sur la question de neutralité, parce que la Suisse, oui, est très fière d'être indépendante formellement, mais matériellement, ce n'est pas du tout le cas. Mais la neutralité, ce n'était pas notre choix. La neutralité s'était introduite il y a 200 ans au congrès de Vienne, quand les grandes puissances en Europe ont voulu que ces pays au milieu de l'Europe, qui étaient importants pour le traverser, que ce n'est pas inclus dans les conflits européens entre les grandes puissances. Et c'est pour ça que nous sommes neutrales. Mais ça veut dire que nous ne voulons pas être partie des conflits militaires, mais nous contribuons aussi à la paix. C'est-à-dire, par exemple, nous envoyons des soldats au Kosovo pour le peacekeeping, C'est aussi une tâche que nous faisons comme pays neutre et nous sommes aussi très engagés dans la coopération, le développement, parce que ça, c'est aussi notre tâche pour améliorer la situation et la qualité de vie des autres êtres humains sur le monde, dans le monde.
Moi aussi, je suis très enchantée de vous voir. Comme présidente de la délégation EU-EFTA-ALE, j'ai eu beaucoup de rapports avec les parlementaires de l'Union européenne. J'étais à Riga quand il y avait le meeting avec le COSAC meeting et je suis de tout près tout ce qui se passe en Europe. Nous sommes aussi très préoccupés. Nous espérons que l'Europe va trouver une solution. On regarde la Grèce depuis des semaines. Ça va, ça monte, ça descend. Maintenant, je continue seulement de regarder la bourse. Parce que si la bourse monte, maintenant j'ai vu qu'elle monte, c'est un bon signe. Si la bourse descend, c'est un mauvais signe. Et notre franc suisse est lié avec la monnaie européenne. Elle est trop forte. Ça, les économistes disent que le franc suisse est 20% trop fort. Alors ça, comme Christa Markwalder a déjà expliqué, ça nous donne beaucoup de problèmes pour l'exportation parce que on est très fort dans l'export des produits mécaniques, industriels, chimiques, et ça va donner des problèmes forts. Peut-être ça va même résoudre le problème de l'immigration. Il y a des gens qui disent si l'industrie va diminuer, alors on n'aura plus le problème des gens qui viennent pour chercher le travail. Mais en tout cas, je voulais encore rajouter. À part des problèmes que nous avons aussi le problème de la recherche. Moi, je m'engage beaucoup pour les sciences et la recherche et nous étions plein membres de Horizon 2020, l'accord avec l'Union européenne pour la recherche et l'éducation. On a perdu ça juste après le 9 février 2014, après ce vote fameux qu'on a nommé, que tous nos membres ici étaient contraires. Le membre qui était en faveur, il est déjà parti. et pour nous, ce sera très important aussi d'avoir ces contrats de recherche parce que l'échange des jeunes et des chercheurs, c'est important, et l'échange de la recherche, c'est très très important pour notre pays très élevé dans l'éducation et dans la formation. Je voulais encore ajouter. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis aussi ravie d'être là. Je viens d'un canton francophone qui est très proche de la frontière française et de l'arc jurassien qui est très industriel, où on fabrique les montres, entre autres. Et on est très fort dans la micromécanique et tout ça. Et nous avons une très forte migration, notamment portugaise. Dans mon canton, sur les noms de famille les plus usuels, le premier nom suisse vient en quatrième position. Les trois premiers sont portugais. C'est vous dire à quel point votre communauté est importante dans mon canton. Et malgré qu'en Romandie, on souffre davantage du chômage, parce que c'est un peu la configuration géographique qui veut ça, nous sommes proches de la France, et la France est un pays extrêmement centralisé, qui donne peu de pouvoir aux régions. Et du coup, elle se développe peu économiquement, ce qui fait, ce qui crée parfois un problème au niveau de l'emploi du côté français, si bien que la Suisse offre passablement d'emploi aux Français aussi, qui sont frontaliers par contre. Et comme la Suisse est très attractive aussi au niveau des salaires, même si les salaires comparativement aux autres en Suisse et dans le Jura en particulier sont plutôt bas, mais par rapport à la France, ils sont plutôt élevés, si bien que ça crée un appel d'air quand même pour ces travailleurs. Et malgré les difficultés liées à cette migration-là, je dois dire que je suis quand même très fière que dans ces régions-là, dans ces cantons romands, l'initiative contre l'immigration de masse a été refusée. Pourtant, je peux vous donner un exemple. La ville du Locle, qui compte 10 500 habitants, qui propose 8 000 places de travail, qui a un taux de chômage de 8%, ce qui est énorme pour la Suisse. On a une moyenne à 3,2%. Elle a aussi refusé cette initiative. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'on est très conscient, d'une part, que cette immigration qu'on a fait que des entreprises s'installent chez nous. Si on n'avait pas toute cette main-d'œuvre à disposition, je pense qu'économiquement, nous souffririons beaucoup plus. Et je pense que vraiment la population est très consciente de ça. L'initiative, elle a plutôt été acceptée dans des régions rurales où finalement ils connaissent peu la migration, étonnamment. Mais c'est surtout eux, en fait, qui ont accepté cette initiative. Et ben, maintenant, il faut qu'on en assume quand même les conséquences, même si ce n'était pas notre choix premier, quoi. Et c'est là que se posent toutes nos difficultés.
Peut-être. Pour terminer ce point sur les aspects formels, donc aujourd'hui, l'initiative donnait au gouvernement et au Parlement 3 ans pour trouver une solution, pour changer de système. Et maintenant, on a une démarche double. La première démarche, c'est une démarche de collaboration, de négociation avec l'Union européenne. Donc là, il y a des négociations de notre gouvernement avec la Commission, etc. Donc ça, c'est cette dimension-là, Suisse-Union européenne, et puis on a une deuxième démarche qui est une démarche Suisse-Suisse interne, hein, et notamment voilà, pour régler à l'intérieur de la Suisse les questions problématiques liées à la migration. Et par exemple, toute une question qui aujourd'hui fait beaucoup de débats, c'est dans les cantons, hein, comment, si on introduit des contingents, quels sont les critères pour les contingents, voilà. Donc on a maintenant formellement une double démarche. Le Parlement devrait, à la fin de l'année, recevoir un projet de loi du gouvernement. Donc on est dans la phase maintenant. Chez nous, 3 ans, pour vous c'est peut-être très long, 3 ans. Chez nous c'est extrêmement court, parce qu'il faut, dans notre démocratie directe, on a des processus. Donc avant, le gouvernement fait un pré-projet, un avant-projet, qu'il transmet en consultation à tous les partis politiques, à toutes les associations, etc., etc., au canton. Donc il y a après, il reçoit l'avis de ces milieux consultés, et après seulement il fait son projet de loi qu'il transmet au Parlement, et ensuite le Sénat et les conseils nationaux font des navettes, hein, et ensuite, à la fin du processus, il peut y avoir un référendum. Ça veut dire que quand la loi est terminée au Parlement, il y a 3 mois. 3 mois pour récolter 50 000 signatures. Donc sur un sujet comme celui-là, on peut imaginer qu'il y a peut-être un référendum. Le Parlement pourrait choisir de faire un référendum obligatoire tout de suite, mais il peut aussi attendre, voir si la population... ça peut être des partis politiques, des associations, etc., qui disent « non, on n'est pas d'accord ». Donc dans notre processus, hein, ça peut être très long, et là, il nous reste maintenant 1 an et demi. Voilà, pour ce sujet de l'Union européenne, encore un petit mot par rapport à votre question sur le développement de l'Europe. Hein, je serai très court. C'est vrai que la Suisse est un pays très riche. On a un niveau de prestations, de formation, de prestations d'infrastructures, de prestations de santé, de prestations sociales, hein, qui est très élevé sur les politiques publiques. Et ce niveau de richesse de la Suisse, bien évidemment, quand on voit les problèmes des pays qui sont autour de chez nous, eh bien, il y a une certaine critique. Hein, on ne porte pas tellement un regard sur le type de développement de l'Union européenne. Hein, la population dit, voilà, nous, on est dans une très bonne situation, pourquoi entrer dans ce club si on est sûr que notre niveau de vie va baisser? C'est plutôt ça, la discussion générale. Maintenant, pour les partis politiques, voilà, il y a, par exemple, dans mon parti, le Parti socialiste, qui est en principe assez pro-européen, ben, il y a aussi des lectures très critiques, hein, voilà, de l'Union européenne. Mais je ne veux pas ouvrir ce thème qui est encore plus loin, on vous laisse la parole.
Muito obrigado pelas vossas respostas, penso que foram muito esclarecedoras. Antes de passar a palavra ao meu colega, houve uma questão que a senhora deputada Gabriela Canavilhas levantou, que é uma parte que eu acho que merecia ser um pouco mais debatida, que tem precisamente a ver com a questão dos refugiados de Norte África. Como sabem, existe um debate dentro da União Europeia neste momento de um esforço coletivo dos vários países, enfim, para procurar responder e encontrar as soluções, porque de facto estamos a falar de uma situação de desastre humanitário, resultado de, enfim, não vale a pena entrar em detalhes, mas de facto é resultado de más decisões noutros países, mas que têm agora consequências diretas na União Europeia e nos países europeus. E a minha questão, reforçando um pouco a pergunta que foi feita, é qual é o posicionamento da Suíça, se há alguma abordagem da União Europeia nessas relações bilaterais para fazerem parte desse processo. E em relação a outra questão, mais um comentário, foi aqui falado sobre o financiamento europeu. De facto, uma das consequências, a diplomacia portuguesa tem por hábito e por tradição não interferir nem opinar sobre decisões soberanas de outros Estados, respeitando naturalmente pelas boas relações bilaterais que existem, mas não negamos que, apesar de outras consequências que possam ser menos positivas para os portugueses, uma das consequências diretas é, de facto, a Suíça, que era um dos campeões no acesso a financiamento europeu, acaba por sair, particularmente do Horizonte 2020, que é um bolo de 80 mil milhões de euros para investigação e desenvolvimento, que para os outros países acaba por ter consequências, que ficam com uma verba mais disponível. E nesse sentido, no entanto, é a minha expectativa, e eu queria deixar só essa nota, que se possam ultrapassar algumas barreiras que entretanto se criaram, porque eu acho que é muito importante, pelo posicionamento que a Suíça tem desenvolvido ao longo dos anos, do ponto de vista precisamente da investigação e desenvolvimento nas mais diversas áreas, que possa continuar a haver o tal intercâmbio que foi referido, as relações académicas, porque isto é, e mesmo de desenvolvimento empresarial, porque seria um desperdício para a própria Europa não sermos capazes de aproveitar todas as mais-valias que a Europa tem perante uma concorrência enorme que existe no Sudeste Asiático, ou na América do Norte, ou na América Latina. E, portanto, queria só deixar estas duas notas, sendo que deixaria que o meu colega também colocasse algumas questões e depois passaria novamente a palavra. Vai usar a palavra o Sr. Deputado Rui Caetano, do Partido Popular, que é o nosso Partido Democrata Cristão.
Bem, antes de mais, muito boa tarde. Dar-vos as boas-vindas a este nosso país, que não sendo tão verde como o vosso, digo com conhecimento de causa e com algum orgulho, é igualmente bonito. De resto, apesar de características díspares significativas em termos de maneira de estar e até de comportamento dos nossos povos, há algumas características que são notoriamente conjuntas e até, digamos assim, compartilhadas, como é o caso, por exemplo, da capacidade de bem receber, que a Suíça também partilha connosco, a simpatia e os bens alimentares, a qualidade dos bens alimentares, nomeadamente no que diz respeito ao queijo, já no chocolate a gente, lamentavelmente, não tem a mesma capacidade, mas tem algumas capacidades em termos de engenharia, nomeadamente na microengenharia, como falávamos, em termos de relógio, relojaria, etc., que são soberanamente conhecidas e divulgadas no mundo. Outra característica que também surge a mim como natural do povo suíço é essa preocupação, digamos assim, com quem menos está. A solidariedade é, de facto, um aspecto principal na sociedade suíça, tanto quanto tenho conhecimento. Há até algumas histórias de que um suíço se debater a seguir, a primeira coisa que faz é tratar da ferida que te criou. Portanto, é quase que obrigatório, é quase que uma questão cultural assistir a quem menos tem e se encontra em situação menos vantajosa. Eu tive a oportunidade de estar, de facto, em algumas vezes no vosso país, em cantões perfeitamente díspares. Tenho, de resto, também alguns familiares diretos, imigrados na Suíça, precisamente no cantão francês, de resto, como é quase que standard, diria que nos outros cantões a presença da população portuguesa é francamente mais reduzida, para não dizer quase que inexistente, sobretudo no cantão alemão existe muito, uma quantidade bastante pequena. E não tenho nenhuma pergunta particular para vos entregar, até porque de resto, como o Sr. Deputado teve cuidado de vos informar, eu cheguei há muito pouco tempo e portanto não é de facto, não tenho muito conhecimento destas questões internacionais, tenho de facto alguma proximidade e tive o prazer de estar convosco e no vosso país algumas vezes e de perceber de facto da força industrial que têm, tanto em termos de desenvolvimento como até mesmo em termos de comércio. A única coisa que me surge, que excita a curiosidade, se assim entenderem, é as notícias que têm vindo a público quanto a uma instituição financeira vossa, de resto de elevado peso, que tem tido aqui, aparecido aqui há umas notícias menos vantajosas, e interessava-me eventualmente perceber em que é que isso tem feito abanar a vossa, digamos assim, a totalidade das vossas instituições financeiras, e se isso tem trazido também alguma diferença na postura, digamos assim, das mesmas e do próprio país. De resto, espero que a gente tenha a capacidade de vos receber condignamente e que a vossa visita aqui seja profícua e nem que mais não seja divertida e vantajosa para vós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora para uma breve pergunta do deputado Carlos Anjos.
Qual é o problema financeiro?
Não, não é SPS,
do BES.
Ah.
Só para uma breve pergunta ao Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado Carlos Anjos.
Muito obrigado. É uma pergunta muito breve, mas eu começo por subscrever todas as saudações que foram feitas aqui pelos meus colegas e agradeço também as respostas esclarecedoras que já foram sendo dadas sobre as questões, digamos, da política de caráter de âmbito internacional. Eu ia voltar-me um pouco para a questão da nossa imigração. Já foi aqui referido, portanto, que os nossos imigrantes são pessoas que, enfim, trabalham com sucesso para o aumento, digamos, da riqueza no país onde estão imigrados. Mas há aqui uma outra vertente que eu gostava de saber qual é a vossa percepção no que toca ao empenhamento político dos imigrantes portugueses, portanto, na Suíça. Há algum alinhamento ou nota-se que eles têm, de facto, vontade de participar das mais diversas formas na vida política, portanto, na Suíça? Obrigado pela atenção.
Merci pour vos questions, alors vraiment très, très larges et intéressantes. Je répondrai, on va se répartir un peu les réponses par rapport au thème. Très brièvement, concernant la problématique des migrations et de l'asile. Donc la Suisse fait partie de tout le système Schengen-Dublin, hein, donc on participe à cette mise en œuvre nous recevons un flux relativement important de migrants et de requérants d'asile. Et nous avons, voilà, nous sommes pleinement intégrés dans le système de l'Union européenne et nous avons à l'intérieur du pays une solidarité entre les cantons pour la prise en charge des personnes avec une répartition, et ça c'est un modèle pour l'Union européenne. Nous on a une vraie répartition des requérants d'asile en fonction du nombre de la population des cantons. Et chaque canton doit, et chaque canton fait, alors ça peut poser parfois quelques petits problèmes, mais la règle elle est vraiment bien appliquée, on se répartit les requérants d'asile pour les procédures, etc. C'est pour nous aussi un souci, alors on n'est pas la porte d'entrée, mais on a une porte de transit aussi. Et la situation économique, la richesse de la Suisse, c'est un pôle d'attractivité. Maintenant, nous, on doit être très prudent comme autorité politique pour ne pas mélanger les deux choses. Pas mélanger la migration économique, et ça, c'est l'essentiel de la migration, et les problèmes liés à l'asile. et on a aussi, comme en Hollande, comme en Belgique, des partis très à droite qui sont à moitié xénophobes. Donc, ça fait partie aussi de tensions politiques. Hein. Mais donc, sur la politique de l'asile, on essaye vraiment d'assumer nos responsabilités, de faire notre travail, quand bien même c'est aussi une difficulté politique interne. Deuxième élément de réponse par rapport à l'aide au développement. Donc la Suisse essaye vraiment d'atteindre, ceux qui sont autour de moi sont mieux informés, pour arriver à ces 0,5% du PIB de moyens consacrés à l'aide au développement. Et le Parlement a manifesté clairement sa solidarité, notamment aussi en relation avec ces problèmes migratoires, de l'aide aux pays en développement comme élément préventif aux phénomènes migratoires. C'est un souci. On a une aide au développement très pointue, je crois internationalement reconnue partout sur la planète, avec des démarches qui ne sont pas forcément ce sont des financements publics, mais qui sont mis en œuvre notamment à travers des associations, à travers des acteurs locaux, dans une perspective de durabilité, de pérennité de ce qui est fait. On est très sévère, mais très actif, et je crois que ça c'est important. Et puis, troisième point, je réponds, la question des banques, notamment l'UBS. Aujourd'hui, après toute une longue phase de le secret bancaire suisse, c'est une phase qui aujourd'hui se termine. Les autorités suisses le gouvernement a présenté un message pour une loi maintenant qui entre pleinement dans les standards de l'OCDE avec l'échange automatique des données, et la planification est faite 2017-2018. Donc pour nous, c'est des problèmes qui sont ça a été une révolution intérieure, c'est spectaculaire. Et ce qui s'est passé en 6-7 ans maintenant, c'est quand même, et c'est, je l'ai déjà dit à nos amis espagnols, c'est un socialiste qui vous dit ça, c'est un progrès très, très, très important. Voilà, je passerai la parole à Christa Marc-Valder sur les questions de la solidarité financière, notamment pour l'élargissement de l'Union européenne, et puis après pour la question très, très importante de l'intégration politique des migrants. Francine John Calam vous donnera quelques expériences, notamment de son canton. Voilà, Christa.
Merci beaucoup. Peut-être aussi une remarque concernant nos grandes banques en Suisse, comme l'UBS et la Crédit Suisse. Ils sont des banques majeures, mais pas sur le plan suisse, mais sur le plan international. Et leur bilan, ils sont plusieurs fois la somme de notre PIB suisse, c'est-à-dire si une de ces banques tombe, c'est le pays qui tombe. Alors, l'UBS était le seul cas où on a dû faire un bail-out. Comment est-ce qu'on dit en français? Où on a dû sauver pendant la crise financière. Et on a créé aussi une loi qui s'appelle « Too big to fail », c'est-à-dire la Suisse était vraiment un protagoniste sur le plan international. Comment on traite les grandes institutions financières, qui est maintenant aussi un exemple, un modèle pour le FSB, c'est le Financial Stability Board, comment on traite, on a beaucoup de règles plus strictes pour éviter qu'une telle banque peut tomber. Peut-être seulement ça additionnellement. Et j'aimerais aussi souligner que la Suisse se montre très solidaire aussi avec l'Union européenne sur des plans différents. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement contributeurs, ou étaient comme plein membre de Horizon et Erasmus et Media, mais nous sommes aussi membres des agences européennes, c'est-à-dire ce sont à peu près 400 agences européennes, et la Suisse fait partie et contribue tout selon notre PIB. Ça veut dire que nous contribuons aux agences européennes, mais nous avons aussi, par une votation populaire, décidé de contribuer 1 milliard de francs suisses pour l'extension de l'Union européenne pour les nouveaux pays membres. Et ça fait me dire aussi qu'avant le 9 février, nous avons eu pendant une dizaine d'années plus que 5 votations populaires positives sur l'intégration pas à pas de la Suisse en Europe. C'est maintenant l'accident, de ma perspective, qui s'est comporté, mais on a eu aussi une majorité de la population qui a toujours dit oui à l'intégration pas à pas sur la voie bilatérale. Maintenant, je donne la parole à Francine.
Alors moi, je vais vous répondre concernant l'implication de la communauté portugaise dans la vie politique de mon canton. Le droit de vote, d'abord, il faut que je vous dise quand même que tous les étrangers n'ont pas forcément le droit de vote en Suisse. Le canton de Neuchâtel est un canton pionnier dans ce domaine. Il offre la possibilité de voter aux étrangers qui sont établis chez nous. Donc, pas ceux qui sont frontaliers, qui ont un domicile ailleurs. Hein. C'est vraiment, il faut être établi chez nous, il y a une durée à respecter. Alors, le droit de vote au niveau de la commune, de la municipalité, il existe depuis 1849. Et on a offert le droit de vote au niveau du canton, aux communautés étrangères, depuis l'année 2000. Et malgré la très grande présence des Portugais dans mon canton, c'est une grosse déception, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, les partis de gauche, pour donner le droit de vote à ces communautés étrangères. Et il y a eu beaucoup de réticences des partis de droite qui disaient ben, « si ces étrangers veulent voter, ils n'ont qu'à devenir Suisses, puisque c'est possible d'avoir une double nationalité, hein, et portugaise et suisse ». Donc, ils comprenaient. Enfin, ça a été une lutte quand même pour obtenir ce droit de vote au niveau cantonal. Et maintenant, les communautés étrangères ont cette possibilité-là, donc de s'exprimer au niveau cantonal. Et la communauté portugaise est la communauté étrangère qui utilise le moins ce droit. Malheureusement. Parce que c'est la plus nombreuse. Donc, malheureusement.
Il faut juste. Pour qu'on soit bien clair, donc, ce droit de vote aux étrangers existe seulement dans le canton de Neuchâtel. Donc, c'est pas en Suisse. Hein, donc, ça vous montre l'indépendance des cantons. Hein, et ça existe pour les communes et pour le canton. Genève aussi, voilà. Donc,
mais ce n'est pas le droit d'aucune chance, voilà. C'est le droit de voter.
Oui.
Aucune chance.
Bem, muito rapidamente, eu gostava de expor uma pergunta de curiosidade pessoal. Daquilo que vocês têm aqui transmitido, o vosso sistema político é de facto complexo e, de resto, também até a elaboração de leis, regras, é um processo longo, complexo. Eu dir-vos-ia que, sendo a Suíça não particularmente rica em meios naturais, o processo político sendo complexo, como é que vocês atingiram este sucesso? O que é que vos leva, o que é que, na vossa opinião, vos permitiu, digamos assim, atingir o nível de riqueza de que dispõem?
Alors, avant de donner la parole je ferai une première remarque, puisque je suis professeur dans le domaine des sciences politiques. On parle de la Suisse, le processus politique suisse, on parle de lenteur et pragmatisme. Voilà, c'est lent, mais c'est très pragmatique. Et puis, pour la deuxième question, chez nous, c'est assez simple. Enfin, entre guillemets. Chez nous, c'est vraiment une dynamique. Notre seule matière première, elle est là. C'est le cerveau. Donc, pour nous, c'est un investissement massif dans la formation, l'éducation, la formation, la recherche, le transfert de technologies et la relation très étroite entre les entreprises, les entreprises, la formation professionnelle, l'université, transfert de technologies et l'interconnexion, nos écoles polytechniques fédérales, nos universités sont interconnectées au niveau mondial, elles sont dans les rankings, dans les meilleures hautes écoles du monde. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est assez reconnu par tous les partis, par la population, et ça c'est vraiment un enjeu. C'est, voilà, notre matière première, on en a une autre, c'est la neige. et les paysages, mais ça c'est plus complexe parce que la politique du tourisme, la concurrence internationale est rude. Je ne sais pas si mes collègues peuvent rajouter, bien évidemment.
Oui, moi je rajoute volontiers quelque chose parce que je pense que c'est, en fait, pour avoir discuté avec aussi beaucoup d'entreprises qui sont venues s'installer chez nous, en fait, ce qui les intéresse, c'est plutôt la stabilité politique. Et le fait que nous soyons plusieurs partis, mais qui devions d'abord se mettre d'accord entre nous pour faire avancer le pays, fait que nous avons un système politique extrêmement stable. Nous n'avons pas l'opposition et la majorité. On ne connaît pas ce système-là. On doit trouver des solutions entre nous. On n'a jamais raison tout seul, moi j'en suis convaincue. Donc il faut qu'on puisse entendre les préoccupations de chacun en fonction de ses sensibilités et tout ça. Et si dans notre système, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau du Parlement, donc entre tous ces partis politiques, eh bien c'est le peuple qui tranche, il vote. Donc en fait, ceci rend notre système politique extrêmement stable. Et malgré le fait que nous ayons des impôts qui sont souvent considérés comme assez élevés comparativement au niveau de ce qui se passe avec l'Union européenne ou certains pays, en tout cas de l'Union européenne, les entreprises, en tout cas avec lesquelles je me suis entretenue, disaient que le niveau fiscal intervenait à la 4e place par rapport à leurs critères d'implantation. Ce n'était pas, absolument pas le premier critère. Le premier critère, c'était clairement toujours la stabilité.
Merci beaucoup. Il faut peut-être savoir que plus qu'il y a 100 ans, la Suisse était un pays des émigrants. C'est-à-dire, les gens avaient faim, ils sont émigrés, ils sont allés dans d'autres pays, par exemple aussi à l'Amérique latine, où il y a encore beaucoup de communautés suisses. Nous avons à peu près 10% des Suisses pas vivant en Suisse aujourd'hui, et des fois ce sont les troisièmes, les quatrièmes générations en tout le monde. Pourquoi est-ce que la Suisse aujourd'hui, elle a du succès, elle est riche? Il y a plusieurs raisons, mais pour le faire court, une raison importante, c'était qu'on n'était pas affecté directement des deux guerres mondiales. Alors, nous étions...
Le Portugal, non.
Oui, mais vous savez, pour nous, c'était important de ne pas avoir toutes les villes détruites. On n'a pas dû vraiment reconstruire nos villes, nos infrastructures, etc. Ça, c'était évidemment une des raisons pour laquelle la Suisse a pu continuer à se développer pendant les autres pays autour de nous. Nos pays voisins étaient plus ou moins détruits. Et je pense qu'une autre, des autres raisons sont à chercher dans nos valeurs. Alors la Suisse était toujours un pays ouvert et beaucoup de notre entreprises qui sont très très internationales, je peux mentionner aussi ceux qui sont engagés en Portugal, comme par exemple Nestlé, comme Novartis, comme l'entreprise que je travaille pour, c'est une assurance, c'est Zurich. Ce sont des entreprises qui se sont investies très tôt à l'étranger, et l'ouverture que les émigrants, aussi les réfugiés pendant les guerres mondiales, ont pu venir en Suisse et ont pu contribuer, ça a aussi fait quelque chose, ou une contribution de notre richesse. Puis, c'est notre volonté de travailler long et dur. On travaille plus d'heures que presque toutes les autres populations en Europe. Et on a aussi une culture de tradition, de responsabilité pour soi-même. On n'a pas tellement de responsabilité individuelle. On ne demande pas d'abord qu'est-ce que l'État peut faire pour moi, on demande plutôt qu'est-ce que je peux faire pour la communauté, pour l'État. Et puis, je pense aussi, pendant les années 90, où on a été dans une crise dure, on a pris des réformes qui étaient très, très importantes pour la Suisse, par exemple, la discipline financière dans le secteur des finances publiques était énormément importante. On a introduit des nouveaux instruments comme la Schuldenbremse,
le
frein aux dépenses, qui nous a aidé beaucoup d'être disciplinés avec les finances publiques et qui nous a mené dans une position meilleure que beaucoup des autres quand la crise financière est venue.
Oui, peut-être tout court. D'abord, oui, la Suisse est un pays de la volonté d'être ensemble et les langues pour nous, c'est aussi très important de connaître. Moi, je suis de langue allemande, j'essaie de parler en français maintenant, et Christa aussi, et de connaître la langue des autres cantons, c'est très important de vouloir être ensemble. Peut-être aussi le service militaire était important en Suisse pour le sentiment, oui, de la cohésion, mais aussi la recherche et les universités. On a des universités de très grande qualité, l'École polytechnique fédérale à Zurich et à Lausanne, qui rayonnent dans tout le monde, qui sont très internationales. Et je trouve, je sais que c'est important, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des bonnes relations avec l'Union européenne, avec tous les pays, avec les chercheurs et la science de tout le monde. Et j'espère qu'on pourra continuer. Ça nous coûte aussi très cher. On investit beaucoup d'argent dans les universités et dans l'éducation, formation. Mais on a aussi la formation professionnelle qui est très, très importante pour notre pays, qui n'est pas connue dans les pays du sud de l'Europe, qui est connu en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Maintenant, les Américains, les États-Unis, ils sont très intéressés à ce modèle de la formation professionnelle. Et alors, ce sont un peu les atouts de notre pays, mais ce n'est pas certain de continuer toujours comme ça. Il faut toujours en travailler. Merci beaucoup.
Bom, chegamos ao final do nosso tempo. Teríamos muito mais para conversar. Resta-me agradecer. Acredito muito que, para além de tudo o que referiram, que o crescimento da Suíça também se fez por via do trabalho e da vontade de trabalhar de muitos imigrantes portugueses e que certamente continuarão a contribuir. Como dizia o chefe da vossa delegação, o processo democrático funciona sendo lento e pragmático, mas isso eu creio que tem levado a um crescimento sólido e estável. E a importância da solidez e estabilidade também se refere às relações diplomáticas, que eu espero que possam continuar em crescendo ao longo dos muitos anos que aí possam vir e que as relações em Portugal e Suíça possam, de facto, continuar a florescer, não apenas por via da diáspora, mas por todos os nossos elos de ligação. E, portanto, termino, em nome dos meus colegas, desejando o resto de uma boa visita, um bom almoço. E, sendo eu de uma terra a 30 km de Lisboa, chamado Cascais, espero que também possam visitar, porque vale a pena a visita, é das terras mais bonitas do nosso país. Com esta nota pessoal. E Sintra também, do meu colega. Muito obrigado e um bom resto de visita.
Voilà. Très simplement, merci beaucoup pour cet échange qui était très, très intense et très intéressant. Je crois que voilà, ça permet de mieux se connaître, ça permet aussi voilà, de comprendre comment fonctionnent nos systèmes. Finalement, on a tous les mêmes soucis, on a tous les mêmes difficultés, mais on a aussi tous les mêmes défis. Et je crois que c'est le quotidien des politiciens que de trouver les meilleures solutions. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange.